Bonjour à toutes et à tous. Je suis Emmanuel Aziza, le responsable des bibliothèques de la ville de Paris. Et nous sommes très heureux, avec mes collègues bibliothécaires, de participer à cette première édition du Festival Effraction, puisque ça correspond à un travail que nous menons depuis de nombreuses années autour du premier roman. Et vous connaissez aussi le lien fort entre premier roman et expérience, même si tous les premiers romans ne sont pas autobiographiques. Et donc, depuis 3 ans, nous avons décidé d'élargir ce travail qui avait commencé avec des comités de lecture par un vrai prix des lectrices et des lecteurs, un vrai prix de premier roman autour d'une sélection. Et cette sélection, elle s'appuie sur des coups de cœur des bibliothécaires, puisque ce sont des coups de cœur que nous affichons régulièrement sur notre portail. Et donc là, nous avons proposé une sélection plus resserrée pour ce prix. Donc ce prix, il y a 3 ans, donc a été, enfin plutôt en 2018, a consacré Pierre Souchon aux éditions du Rouergue avec le roman Encore vivant, que Sylvie Gracia a édité, donc qu'elle connaît bien. Et puis l'année dernière, c'était Joseph Pontus pour le roman À la ligne, aux éditions de la Table Ronde. Donc à chaque fois, nous sommes très heureux de pouvoir mettre un coup de projecteur auprès de l'ensemble des usagers de la ville de Paris, des bibliothèques de la ville de Paris, sur ces premiers romans. Et nous allons d'ailleurs organiser une rencontre avec les 5 auteurs sélectionnés au Carreau du Temple. Donc ce sera le 20 mars. Et puis après, ce sont des dates qu'on va vous rappeler. Et puis le 4 juin, nous décernerons ce prix. Mais auparavant, il faut bien sûr voter. Et donc nous avons ouvert largement ce vote. Donc vous voyez ici que vous pouvez voter du 15 février au 15 avril, et soit sur place dans les bibliothèques, soit sur le site bibliothèque.paris.fr. Donc je vous souhaite une très bonne rencontre avec Catherine Pontenberg qui va l'animer et qui nous accompagne aussi sur ce prix.
Merci Emmanuel. Et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus donc pour cette rencontre consacrée au premier roman qui prend place dans le cadre d'un nouveau festival. Et moi je tiens vraiment à saluer la création d'un nouveau festival, parce que c'est toujours un moment très très heureux qu'un festival de littérature soit créé, et de surcroît qu'il soit créé à Paris, où nous n'avions pas de festival de littérature, abondance bien sûr de manifestations littéraires, mais pas de festival. Donc on souhaite beaucoup de chance à cette manifestation. Et puis donc cette rencontre co-organisée avec les bibliothèques de la ville de Paris, moi je n'ajouterai pas grand chose, si ce n'est que ce prix, il est particulièrement important, ce prix donc qui consacre un premier roman, parce que c'est un prix de lecteur, voilà, et que les prix de lecteur bien sûr ont toujours une valeur un peu particulière, même pour les auteurs, je crois, qui sont toujours très sensibles au fait d'être connus, non pas par des professionnels mais par des lecteurs, en l'occurrence les lecteurs des bibliothèques de la ville de Paris. Avant d'ouvrir la conversation, je vais faire juste de toute petite présentation. Sylvie Gracia, vous êtes éditrice aux éditions de l'Iconoclaste et vous avez longtemps travaillé pour une autre maison qui sont les éditions du Rouergue. Et puis vous êtes vous-même auteur de plusieurs romans, dont l'un qui s'intitule « Mes clandestines », qui est paru en 2015 chez Jacqueline Chambon, hein, c'est bien cela. Élise Nebou, qui est donc au milieu, vous avez longtemps travaillé pour Numa, qui est un lieu d'innovation dans l'accompagnement des entreprises, et puis vous avez cofondé, c'était en 2016, un lieu absolument formidable qui s'appelle Les Mots, et qui est une école consacrée à l'écriture, on va bien évidemment en parler. Et puis enfin, Mathieu Palin, journaliste et l'auteur d'un premier roman qui s'intitule Sale Gosse et qui est paru en 2019 aux éditions de l'Iconoclaste. Alors pour ouvrir cette conversation sur ce moment si particulier qu'est la publication d'un premier roman et qui a bien sûr des incidences après sur toute la vie d'un auteur, peut-être la première chose moi que j'aimerais souligner, c'est le fait qu'il arrive qu'un premier roman publié ne soit pas nécessairement le premier texte écrit, ou que parfois il s'agisse d'un texte écrit il y a longtemps, avant qu'on le présente à un éditeur. Est-ce que l'on pourrait dire, Mathieu, j'ai envie de commencer avec vous, que dans la publication du premier roman, il y a quelque chose qui serait un peu de l'ordre d'un passage à l'acte, à la fois, qui relève à la fois d'une forme de certitude, j'ose montrer mon texte et donc me montrer, et aussi bien sûr qui relève d'une forme de doute, suis-je à la hauteur, comment mon texte va-t-il être reçu. En tout cas, cette notion de passage à l'acte, est-ce que vous l'avez peut-être vous senti de cette manière-là en présentant votre premier manuscrit?
Bonjour à tous déjà. Ben moi c'est un peu particulier parce que je suis journaliste. Disons que la perspective d'être publié et pour le dire un peu trivialement, d'avoir son nom sur la couverture ou en bas d'un article, elle était moins forte parce que c'était quelque chose que j'expérimentais déjà depuis des années. Et la publication du premier roman, elle est arrivée dans une démarche journalistique, c'est-à-dire que j'étais sur le terrain pour, j'enquêtais pour ce qui à l'époque allait devenir pour moi un reportage. Parce que je travaillais pour la revue 21, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sont des reportages assez longs qui font une quinzaine de pages. Et donc, écrire 15 pages, publier comme ça, ça nécessitait d'aller sur le terrain, d'enquêter, de passer du temps. Et finalement, j'ai été pris un peu à mon propre piège, et plus le temps passait, moins j'avais envie d'écrire d'articles, et plus je commençais à me projeter vers quelque chose de différent. Alors c'était un livre de journaliste à la base, et puis finalement c'est la rencontre avec une éditrice, en l'occurrence Sophie de Sivry à l'Iconoclaste, qui m'a suggéré peut-être d'angler vers une porte que j'avais jamais ouverte, qui est celle de la fiction. Et à ce moment-là, je lui ai dit bah ok, on la tente, mais c'est vrai que ça m'a... J'en aurais pas eu l'idée seul, en fait. C'est ça peut-être la différence avec beaucoup de jeunes ou de moins jeunes primo-romanciers qui écrivent seuls dans l'espoir un jour d'être lus par un éditeur en envoyant par la poste. Moi, j'ai eu cette chance immense d'avoir une éditrice à l'écoute déjà, parce qu'elle lisait ce que je faisais en tant que journaliste, et qui me disait bah, « Pourquoi tu n'essayerais pas ce que tu n'as jamais fait, c'est-à-dire de la fiction ?»
Donc c'était un peu différent. L'ouverture de la porte s'est faite plus facilement peut-être que
pour d'autres. À mon avis, beaucoup plus facilement que d'autres, tout simplement parce que je ne me suis pas retrouvé seul avec mes questions, mes doutes, à me dire bah, « Je vais aller... acheter des ramettes de papier pour l'imprimer en centaines de milliers d'exemplaires, centaines de feuilles pour arroser entre guillemets la profession, en espérant que peut-être quelqu'un dans une maison aura le courage de le lire. C'est très différent, quoi.
Pour rester peut-être sur cette métaphore de la porte qu'a utilisée Mathieu, Sylvie Gracia, en tant qu'éditrice, vous êtes celle d'abord qui a accompagné ce passage à l'acte dont je parlais, et celle qui donne les clés précisément d'ouverture de la porte, qui sont pas toujours évidentes pour les primo-romanciers, hein. Il y a vraiment un vrai travail d'accompagnement quand même de la part de l'éditeur la première fois.
Oui, enfin, ça marche.
Ça marche, oui, ça marche. Oui, ça marche.
Moi, je dirais que la première clé, c'est l'auteur qui la porte, c'est-à-dire qu'il arrive, avec un manuscrit a priori achevé. Et mon premier travail, c'est de déceler parmi les... Bon, en ce moment, à l'Iconoclaste, c'est plutôt 15 manuscrits par jour qui arrivent. De déceler parmi les 15 qui arrivent et plutôt parmi les 150 ou 300, 400 dans le mois, celui qui mérite d'être lu, pas forcément d'aller jusqu'à la publication, mais au moins d'être lu. Donc voilà, on est éditeur face à cette avalanche de manuscrits qui arrivent. Et effectivement, celui qui va, j'en prends une expression un peu vulgaire, mais sortir celui ou celle qui va... va sortir du lot sur une année dans une maison d'édition. On publie, par exemple, à l'Iconoclaste, on va publier 1, 2 premiers romans peut-être dans l'année. Au Rouergue, c'était pareil, c'était parfois 0. Donc il y a effectivement une ouverture incroyable quand on le sait, quand on appelle un auteur en lui disant je viens de vous lire et je vous appelle. Voilà, ça c'est déjà incroyable souvent pour les auteurs. Ouais. Après le travail se fait bien sûr ou parfois ne se fait pas parce que parfois il y a des livres
qui arrivent. Il n'y a pas nécessairement de travail.
On travaille à la marge, quoi.
On va y revenir bien évidemment. Élise Nebout, c'est très intéressant l'initiative qui est la vôtre parce que je crois que ça s'inscrit dans une vision qui est en train de se renouveler, vision de l'auteur qui est en train de se renouveler. On voit fleurir depuis quelques années de plus en plus de lieux. Je pense à des séminaires au sein d'universités comme à Paris 8, hein, créés par Vincent Message et Olivia Rosenthal. Notamment des séminaires de création littéraire. Donc l'idée que, au fond, la littérature repose aussi sur des techniques et que l'acquisition de ces techniques peut se faire dans des cadres ou universitaires ou dans le cadre d'écoles, c'est une manière de positionner l'écriture un peu différemment de ce qu'on faisait autrefois.
Ben oui, je pense qu'il y a un vrai renouveau, ce qui est quelque chose de très beau à voir, un vrai renouveau de la scène littéraire ces dernières années. Nous, quand on a créé l'école avec mon associé, qui est Alexandre Lacroix, qui a fondé il y a une dizaine d'années le magazine Philosophie Magazine, on avait cette envie de créer un lieu très vivant et moderne pour accueillir toutes les personnes qui s'intéressent à l'écriture, que leur envie soit d'ailleurs de se faire publier ou pas, et d'avoir un lieu où on puisse rencontrer des écrivains de métier. Et de métier suppose effectivement qu'il y a un savoir-faire, et un savoir-faire qui est souvent d'ailleurs largement abordé avec l'éditeur, qui travaille beaucoup les textes, enfin plus ou moins en fonction des cas, mais qui va quand même avoir un rôle important à ce niveau-là, et qui montre que l'écriture n'est pas que transcendance et inspiration qui vous tombe un beau matin, qu'il y a un certain nombre de techniques, et qu'un auteur qui a travaillé pendant 20 ans avec sa page, son stylo ou son ordinateur, plus vraisemblablement aujourd'hui, en fait développe tout un tas de savoirs, de connaissances, ce qui n'empêche pas que la littérature et le fait qu'un premier roman soit quelque chose de fonctionne relève d'une certaine magie. Donc quelque part à l'école, on n'est pas du tout dans l'idée de dans l'idée qui serait illusoire d'une recette magique qui permettrait d'écrire le best-seller. Donc on essaye de faire, en fait, de faire du creative writing qui est voilà, évidemment très répandu dans les pays anglo-saxons qui prennent la question finalement de façon assez pragmatique, peut-être moins romantique, et on le fait à notre sauce, à la française, avec un réseau de 150 auteurs qui vont un peu ouvrir leur boîte à outils et la partager avec des personnes qui vont prendre ce qui les interpelle eux, quoi. Donc mais je crois quand même que effectivement la naissance de cette école n'est pas arrivée par hasard à ce moment-là, parce qu'il y a un renouveau de la vie littéraire et que c'est magnifique dans un pays qui est le nôtre quand même. Voilà.
Mathieu, est-ce que vous avez ressenti cela, le fait que là, même si vous n'avez pas vous-même emprunté ce chemin, puisque vous l'avez expliqué, votre trajectoire est celle d'un journaliste, mais est-ce que vous ressentez ça, le fait qu'il existe dorénavant des lieux de création littéraire où on enseigne un certain nombre de techniques, notamment la création de personnages, etc. Est-ce que ça vous paraît être quelque chose qui permettrait de faire tomber un peu ce mur dressé face à l'écrivain, qui est celui de l'inspiration, effectivement, de quelque chose qui descendrait du ciel ?
Bah oui, mais moi en fait, je suis. En l'occurrence, mon livre est sorti en rentrée littéraire, mais je connais très mal la littérature française, je dois l'avouer. Et je suis un grand lecteur, par contre, de la littérature américaine. Et dans la littérature américaine, il y a beaucoup de je pense à Truman Capote, Norman Mailer, Salinger, enfin tous ces écrivains du XXe siècle ont jamais caché l'énorme travail qu'ils fournissaient, que ce soit en documentation ou en réécrire des centaines de fois des personnages pour avoir construire la philosophie du personnage, construire des différentes relations, comme ça. Donc c'est bien sûr pas ça tombe pas du ciel, c'est un travail qui est énorme et qui demande de faire, de refaire, de se balader, de rencontrer des gens, de faire des interviews extrêmement longues et tout. Et en tant que journaliste, moi je me reconnais beaucoup plus dans ce travail là alors je sais pas comment se passent les cours justement de narrative creative writing, je sais pas comment on dit, mais ça me semble nécessaire de poser les choses de manière claire, c'est que c'est un travail. Et c'est pas, je veux dire, ce serait faux, c'est comme dans le sport, moi je connais bien le sport, de dire que c'est parce que vous avez du talent alors vous devez pas vous entraîner.
C'est la dimension du
quelqu'un
travail.
Quelqu'un qui a du talent, s'il ne s'entraîne pas, eh ben, il ne perce pas. C'est ça.
Je me demandais, Sylvie, si pour un éditeur, il y a une sorte d'empreinte visible dans les textes pour les auteurs qui sont passés par des séminaires ou par des écoles ou par des cours de création littéraire. Est-ce qu'il y a une manière de faire détectable à la lecture ou pas du tout ?
J'espère que non. J'espère que non, parce que ça voudrait dire qu'on est dans la fabrication. dire que
mais oui, moi, c'est une vraie question, ça.
Oui, de... non, mais j'ai pratiqué aussi les ateliers d'écriture donc dans, qui existent depuis très longtemps en France, dans les, dans, au début des années 90. Moi, je suis même moi-même passée par l'atelier d'écriture. Le principe de l'atelier d'écriture, ce que vous pratiquez sûrement vous aussi, c'est de trouver la d'aider chacun à trouver sa singularité. C'est-à-dire qu'il y a la notion de travail, mais il y a aussi la notion de singularité. À partir du moment où l'on bascule dans des alors, je ne sais pas, mais les modes de fabrication, ou si l'on doit reconnaître, par exemple, que certains auteurs passés entre les mains d'un tel se ressemblent, ou même entre les mains d'un éditeur, c'est quand même compliqué. C'est-à-dire que même moi, en tant qu'éditeur, je suis d'abord à l'écoute de ce qui est là, de ce que l'auteur produit. Et donc, c'est dans sa patte même, dans son écriture, dans son univers, que je vais essayer de trouver une forme d'intimité qui me permet de l'aider à aller plus loin dans ce qu'il est lui-même et pas dans de modèles extérieurs ou dans ma propre vision. J'ai toujours été assez éclectique et le rôle d'un éditeur, c'est d'être à l'écoute de l'autre et j'ai toujours publié des auteurs qui ne se ressemblaient en rien, vraiment en rien. Et je crois que c'est le principe même du travail d'accompagnement de l'éditeur.
Oui, il y a peut-être d'ailleurs cette première étape. Je regardais au sein de l'école Les Mots, il y a un parcours pédagogique qui est proposé en 6 étapes. Et la première étape, elle est importante, c'est oser se lancer. Donc que ce soit à l'école ou que ce soit grâce à l'accompagnement d'un éditeur, il y a le fait d'oser. C'est quand même quelque chose, prendre la liberté de trouver son propre chemin, ce qui est la chose la plus, à la fois la plus difficile et la plus essentielle pour un primo-romancier.
Ben oui, tout à fait. C'est vrai que... c'est assez amusant que vous ayez pu voir le parcours pédagogique. Je dois dire que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ce que vous dites à l'instant, parce qu'on a essayé de créer l'école avec une vraie liberté d'accès. Donc en fait, ce qui compte, c'est d'être en interaction avec un auteur qui vous plaît. Or, à l'école, on travaille avec des personnes, ça va de Yannick Enel, qui a un univers très poétique, à des personnes comme Emma Becker, qui est beaucoup plus péchue. Donc ça dépend beaucoup en fait de l'auteur avec qui vous travaillez. C'est ça qui est assez amusant. Et pour revenir à votre question, c'est vrai que une des grosses problématiques à laquelle on a été confronté, puisqu'on a accueilli près de 4000 personnes depuis l'ouverture en 2017, c'est des personnes qui viennent en nous disant bah voilà, je suis bloquée, quoi, j'arrive pas à me lancer, j'ai envie de me lancer, et qui vont se lancer à un point en fait qui est assez formidable, parce que on s'est rendu compte au bout d'un an, deux ans, que des personnes qui n'osaient pas se lancer finalement non seulement arriver à se lancer, mais finaliser un manuscrit et le publier. Ça nous montre en fait que l'atelier n'est pas du tout poterie et coloriage et une activité un petit peu qu'on pourrait regarder un petit peu de haut. Non, la réalité de l'école, c'est qu'on voit que y a beaucoup de jeunes auteurs qui s'y forment et qui publient qui publient, est-ce qu'ils republieront, etc. On n'a pas assez de recul pour le dire, évidemment. Donc, mais on les voit avancer, c'est beau. Et je dois dire autre chose encore, c'est que le doute et consubstantiel de la création littéraire, et on voit même des personnes, je parlais d'Yannick Enel, qui finalement, Yannick Enel a écrit son dernier livre, a été primé du prix de Médicis en 2017 ou 2018 pour Tiens ferme ta couronne, qui est un livre magnifique. Et puis un jour à l'école, je croise Yannick un petit peu tortueux et je lui dis ça va Yannick, qu'est-ce qui se passe? Il me dit je doute, quoi, j'y arrive pas, j'ose pas me lancer. Non, mais t'es Yannick Enel, tu ne peux pas ne pas oser te lancer. Donc, ce que je veux dire, c'est que le doute, finalement, et le fait d'avoir du mal à se lancer, concerne évidemment des personnes qui n'ont jamais finalisé un manuscrit, mais aussi des écrivains qui ont déjà écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et finalement, l'énergie que vous trouvez à l'école, elle est très, très bénéfique.
Heureusement que le doute continue.
Et je pense qu'effectivement, on en parlait avec un auteur récemment. On se disait que quand ce doute disparaît, c'est plutôt mauvais signe. Donc finalement, il est plutôt bienvenu.
Ouais. De même que les grands comédiens ont toujours le trac, je pense que les grands auteurs ont toujours des doutes. Ouais. Enfin, j'espère. Je ne sais pas, cette notion du doute, pour vous, elle est importante dans le processus de l'écriture?
Elle est d'autant plus importante aujourd'hui qu'en ayant signé pour un deuxième roman, je me retrouve dans la position justement de celui qui a je dirais pas que c'est une pression, mais on sait que c'est un processus long, l'écriture, et on a toujours quand même en soi, je pense, l'envie de pas se rater. Et donc ça veut dire se lancer, ça veut dire ne pas bien se lancer, ça veut dire pas prendre le mauvais chemin et écrire comme ça pendant 6 mois avant de se rendre compte qu'en fait ça tient pas. Donc c'est oui, moi je suis un tout débutant, hein. J'ai écrit un roman, je suis sur le deuxième, mais je pense tout à fait partager ça.
C'est vrai aussi que pour un primo-romancier, comme on dit, il y a tout un parcours, alors là, je ne sais pas s'il est initiatique ou pas, mais que les éditeurs, bien sûr, accompagnent, parce qu'une fois qu'on a présenté son manuscrit, qu'il a été lu et qu'il a été accepté, après, il y a des tas d'étapes qui font que des tas de gens accompagnent un livre. En réalité, il y a l'éditeur d'abord, premier lecteur, et puis après, il faut signer un contrat, il faut faire la promotion du livre, il faut aller le défendre en public. Enfin, tout ce processus-là, c'est important aussi, et pour un primo-romancier c'est une découverte qu'il faut accompagner là pour le coup.
Bah oui, mais c'est plutôt enrichissant,
ah bah,
et
bien sûr
extraordinaire pour les gens de voir d'abord le livre sortir. Enfin, nous là pour vous parler concrètement, donc on prépare à l'Iconoclaste la prochaine rentrée littéraire, donc un premier roman va sortir, on va avoir un premier roman parmi 3 livres dans cette rentrée, et là on est en train de finaliser le manuscrit avec l'auteur. Après, effectivement, moi j'ai dû travailler avec lui pendant 4 mois de façon intensive, 4-5 mois, et aujourd'hui il se rend compte, il sort de ce processus où il avait la tête dans le manuscrit, aller au bout de ce qu'il avait à faire, et il se rend compte que là il va passer à l'autre étape, et c'est comme un saut dans le vide, un autre saut dans le vide, d'autant qu'il est, il écrit sur Marseille, sa ville, il écrit sur les habitants de là-bas, avec à la fois, c'est drôle, mais c'est aussi acide, donc je lui dis, ben voilà, tu vas devoir aller parler de ce livre-là, je lui ai demandé d'écrire quelques lignes sur son point de vue d'auteur, et il se retrouve face à la réalité de cette chose-là, c'est-à-dire un livre qui sort avec son nom dessus, un livre sur lequel il a passé beaucoup de temps, et qui est très proche de lui en plus, parce qu'il parle aussi en partie de sa jeunesse à Marseille et de gens qu'il connaît. Donc voilà, il se retrouve face à un livre, c'est aussi une chose réelle qui a un impact sur les lecteurs, sur des proches aussi. Et donc il est, voilà, chaque primo, vous dites primo-romancier, se trouve, mais aussi parfois au 10e, au 15e, 15e livre, on se retrouve aussi face à ça, c'est-à-dire que le livre sort et va être lu, quoi. Ou pas.
Oui, alors ça c'est encore une autre étape. On se pose souvent la question pour les premiers romans de la bonne maison d'édition. Je ne sais pas comment vous abordez cette question-là, les uns et les autres, parce que c'est vrai que c'est important pour un jeune auteur d'adresser, vous disiez tout à l'heure, on peut envoyer des tas de copies à des tas d'éditeurs, mais en réalité l'important c'est de trouver le bon endroit. Il y a des bonnes maisons pour accueillir un certain type de manuscrits et d'auteurs, et d'autres moins. D'ailleurs, si on emploie le mot de maison, c'est pas pour rien, hein. Maison d'édition, c'est-à-dire qu'un endroit où l'auteur se sent bien. Donc, elle est compliquée, cette question-là, de trouver le bon endroit. Comment ça s'est... Bon, pour vous, c'était un peu particulier, mais...
Moi, c'est un peu particulier, mais j'en ai pas mal discuté, parce que du coup, une fois qu'on publie un roman, on rencontre aussi plein d'autres primo-romanciers, parce que c'est quand même un petit monde. Donc, les livres ont des auteurs et les auteurs on les croise assez souvent, mais je sais que pour ceux qui ont fait justement ce travail-là d'écrire seul et de chercher la maison idéale qui peut-être allait publier leur roman, d'abord il faut adresser une maison qu'on connaît, donc qu'on lit, dont on connaît un peu le catalogue, dont on apprécie les publications. Et après, je pense que ça, vous allez peut-être en parler mieux que moi, mais on peut quand même distinguer assez facilement des grandes maisons qui publient à chaque rentrée littéraire une quinzaine, voire même une vingtaine de titres. Et dans ce cas-là, quand on est personne et qu'on est connu de nulle part et qu'on arrive avec un premier roman, c'est peut-être un petit peu plus difficile d'être observé, de sortir du lot, comme on disait tout à l'heure, que lorsqu'on est comme moi, tout aussi inconnu et arrivant comme ça sur la pointe des pieds, mais défendu par une petite maison qui arrive avec 3 romans à la rentrée littéraire, je pense que ça a de l'impact quand même. Je veux dire, si j'avais été, disons, dans une autre démarche, mais à chercher vers qui publier ce roman qui est dans mon tiroir depuis très longtemps, j'aurais choisi une maison voilà, qui est encore à taille humaine. Parce que y a un rapport direct et un vrai travail d'accompagnement qui est peut-être pas le même quand la maison doit défendre en même temps 20 romans à la rentrée littéraire. C'est pas la même chose.
Est-ce que cette question de trouver la bonne maison pour un manuscrit, c'est une question que vous abordez dans le cycle des...
C'est un sujet énorme, en fait. Il y a tellement de choses à dire. Est-ce que vous avez l'après-midi? Parce que... On recommande évidemment aux auteurs d'envoyer un manuscrit avec une sorte de lettre de motivation aux maisons qu'ils aiment, aux maisons qu'ils lisent. Parce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition. Vous avez des grandes maisons d'édition qui publient beaucoup et qui sont attachées à des grands groupes industriels. Et vous avez des plus petites maisons d'édition indépendantes. Mais il y a beaucoup de maisons d'édition. D'ailleurs, il y a bientôt le Livre Paris. Vous pouvez... Allez-y, si vous êtes jeune auteur, c'est le moment d'y aller. Mais c'est un parcours du combattant. Mmh. C'est un parcours du combattant parce que il y a tout simplement pour la raison... évoqué tout à l'heure, qui est que les éditeurs reçoivent beaucoup de manuscrits. Donc si vous adressez votre manuscrit à quelqu'un de particulier dans une maison, déjà peut-être que vous gagnez un petit peu de chance d'être lu, parce que sinon votre manuscrit, il va dans un service des manuscrits, et là le traitement est très différent en fonction des maisons d'édition, donc chaque maison d'édition s'organise. Mais le service des manuscrits, c'est quand même énormément de manuscrits, donc c'est pas évident. Vous n'êtes pas sûr d'avoir une réponse. Vous aurez peut-être une réponse rapide, peut-être jamais, peut-être argumentée, peut-être pas. Et puis une fois que vous aurez publié, ça va commencer un deuxième parcours du combattant qui est sur un climat quand même de plutôt de surproduction que de sous-production et de vente du livre. Bah là, je les ai encore en janvier, moins 1% sur les ventes du livre, va être très difficile. Donc les libraires vous disent, bah nous, on reçoit un tsunami de livres, donc il va falloir passer beaucoup d'étapes et il faut vraiment s'accrocher, ça n'est pas facile du tout.
C'est vrai que c'est important, ça a souligné Sylvie Gracia, c'est que c'est non seulement trouver la bonne maison d'édition mais le bon éditeur, parce qu'au sein d'une même maison, il y a différents éditeurs avec des sensibilités différentes, des goûts littéraires différents et qui accueillent un manuscrit en fonction de leurs propres choix, de leurs propres orientations.
On n'a souvent pas le choix. Déjà, si vous trouvez une maison d'édition pour vous accueillir, vous ne demandez pas si votre éditeur est le bon. Mais non, mais sur la question de la maison d'édition, effectivement, un point positif à dire, c'est-à-dire qu'en France, on est quand même très... très, très attentif au premier roman. La preuve, on est ici, on discute de cette question-là. C'est une catégorie, il y a plein de prix partout, en France, etc., etc., des festivals. Mathieu, je crois que tu es sélectionné pour le festival de Chambéry, qui est le plus ancien festival consacré au premier roman. Donc voilà, il y a une vraie attention. Et de même, chez les éditeurs, on est très attentif au premier roman. Par exemple, le service des manuscrits, c'est moi qui le... Enfin, le mail manuscrit ou à l'iconoclaste, c'est moi qui le lève tous les matins. Enfin, qui le lève, ça veut dire j'ouvre les manuscrits. Donc voilà, donc ça veut dire que le livre n'arrive pas entre les mains d'une stagiaire ou d'un service de manuscrits qui reçoit 50 ou 100 manuscrits par jour. Après, c'est compliqué pour le choix de la maison. Effectivement, le fait de connaître la maison, de la lire, mais aussi il y a plein de petites maisons qui font un très bon maison moyenne que les jeunes auteurs ne connaissent pas forcément, et pourtant qui sont très attentifs à ses premiers romans et qui font un excellent travail. Donc il y a aussi un facteur de curiosité, aller voir son libraire, regarder les rayons de son libraire, lui demander quelles sont les maisons aujourd'hui qui travaillent bien, qui défendent les premiers textes, qui sont attentifs aux jeunes auteurs. Voilà, il y a ce travail-là de curiosité aussi. Ça peut permettre d'aller toucher un éditeur qu'on ne connaît pas du tout et qui pourtant c'est sur celui-là que ça va c'est avec celui-là que ça va marcher.
Et j'ajoute juste que c'est vrai que souvent, nous, on voit à l'école, parce qu'on travaille beaucoup avec d'aspirants primo-romanciers, que souvent, on a en tête les deux, trois grandes maisons. Alors évidemment, Gallimard, par exemple. Et je pense que ce n'est pas toujours pertinent, parce que dans une plus petite maison, d'abord, vous avez plus de chances d'être vraiment accompagné par votre éditeur et votre maison de A à Z. Et puis aussi que le manuscrit soit lu, parce que dans les plus petites maisons, effectivement, il y a un traitement un petit peu plus particulier. Alors après, la contrepartie, c'est qu'évidemment, il y a moins d'auteurs publiés. Comme tu le disais, Sylvia, c'est plutôt un ou deux.
C'est un sur mille à peu près partout. Hein, voilà. Donc, c'est ça.
Mais dans les grandes maisons,
Il
y a un peu plus de... je pense à une maison comme Alary, ce sont vraiment des maisons comme l'Iconoclaste, ce sont des maisons d'auteurs, donc il y a peu d'auteurs sélectionnés, ce qui est bien. Dans les grandes maisons, il y a peut-être plus de volume, à contrario, vous aurez peut-être moins d'accompagnement. Donc après, c'est un choix, il faut tenter. Et puis je crois qu'au fond, aller vers la maison qui vous inspire le plus, que vous aimez, que vous lisez, quoi, exactement ce que tu disais en librairie, les livres dont la couverture vous parle, ce sont des choses aussi simples que ça.
Il y a peut-être une chose sur laquelle il faut insister, que moi je trouve très, très frappante depuis déjà, je sais pas, une quinzaine d'années, c'est le fait que dans les rentrées littéraires, dorénavant, il y a beaucoup plus de premiers romans qu'autrefois, et que les premiers romans ont vraiment pris leur place dans le paysage éditorial français de manière assez remarquable. On a fait des vraies découvertes formidables depuis quelques temps. Donc ça, c'est plutôt un signe très, très encourageant. Hein.
Ben oui, c'est vrai qu'on s'en réjouit. Hein. Je pense que, après, évidemment, finalement, la vie d'auteur, elle ne s'arrête pas au premier roman.
Non.
Et souvent, il y a une grande...
Il faut souhaiter.
Ouais. Oui, effectivement. Donc, il faut continuer derrière. Mais, mais le premier roman offre une vraie visibilité et moi, personnellement, je lis beaucoup, beaucoup de premiers romans avec grand plaisir.
Mathieu, vous êtes un lecteur de premiers romans ?
Cette année, oui. Mais ça faisait longtemps, je pense, que je n'avais pas lu de premier roman. J'en ai beaucoup lu cette année, tout simplement, parce que j'ai rencontré les auteurs. Du coup, ça m'a donné envie de lire les premiers romans. Et en fait, ce que... Après, c'est très personnel, hein, mais ce que j'aime c'est, dans un livre, c'est quand je sens une sincérité d'auteur et que je vois que l'auteur a essayé de mettre tout ce qu'il avait en lui, tout ce qu'il avait peut-être accumulé, peut-être sur plusieurs... J'ai lu pas mal de premiers romans cette année, publiés aux États-Unis notamment, et on sent que... Par exemple, vous avez peut-être lu, après ça a fait beaucoup de débats, mais le livre de Gabriel Talent chez Gallmeister qui s'appelle My Absolute Darling. Bah, c'est le genre de premier roman qui me plaît parce qu'on sent que ça sort des tripes. C'est pas fait pour... ça vise aucun public, en fait. Il n'y a que ce mec-là qui aurait pu l'écrire. Et en ça, je trouve que le premier roman a un charme peut-être que le deuxième ou troisième ou quatrième ou cinquième roman a peut-être moins. Après, ça dépend des auteurs. Parce qu'on sent que justement... Il y a un autre livre d'ailleurs auquel je pense. J'avais eu la chance d'interviewer l'auteur, là, cette fois en tant que journaliste. C'est le livre de Nico Walker qui a eu un énorme succès aux États-Unis, assez peu en France, qui s'appelle « Cherry ». Et c'est l'histoire d'un... Donc c'est son histoire, mais qu'il a déguisé sous les traits d'un personnage romanesque. Et c'est pareil, on sent que c'est 10-15 années d'une vie qui, au bout de la boucle, termine dans un roman. Et moi, c'est ce que j'aime dans les livres.
Alors là, vous soulignez quelque chose sur lequel, en général, on s'accorde assez volontiers en disant que les premiers romans, peut-être davantage que d'autres, ont tendance à être des textes d'autofiction dans lesquels l'auteur se met davantage en scène. Je ne sais pas, Sylvie Gracia, avec votre expérience, si c'est vérifié. Est-ce que les premiers romans que vous recevez sont en général des textes d'autofiction ou bien au fond, c'est peut-être plus diversifié que cela ?
Non, c'est assez diversifié aujourd'hui. Je trouve que justement la vitalité de la littérature française se voit de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes auteurs qui se saisissent de la fiction, mais vraiment frontalement, même sur leur premier roman. Et donc, il y a bien sûr, il y a plein de livres inspirés, en tout cas, de vécu. Mais il y a aussi un vrai travail de fiction, de renouveau de ça, en France. Donc après la question du premier roman, moi, dans mon rôle d'éditeur, la question est de savoir aussi si ce livre-là est un livre, et le premier roman annonce une carrière ou pas. On est toujours dans l'après aussi, c'est-à-dire qu'il y a effectivement la force du premier, mais qu'est-ce qu'il y aura derrière? C'est-à-dire qu'on est là pour repérer des talents, et c'est toujours un inconnu du travail de l'éditeur. Savoir ce que ça va donner ensuite, entre guillemets. On est dans cette logique-là quand même. Mmh. On n'est pas des innocents. Qu'est-ce que ça va donner après? Est-ce qu'un jour cet auteur, au-delà de son premier roman, même si ça marche, va avoir une vraie carrière? C'est-à-dire qu'est-ce qui va imposer sa marque dans le paysage ou pas? Donc un parcours d'écrivain. Est-ce qu'on est au début d'un parcours d'écrivain ou pas? Oui, ça c'est compliqué.
Oui, ça c'est l'œil de l'éditeur qui.
Parfois, ouais. Vous savez, c'est jouer au loto. Hein. Enfin, c'est jouer au loto. Parfois, c'est difficile, mais on. Voilà.
Pour revenir à cette question de l'autofiction, je me demandais si au sein de l'école Les Mots, il y a beaucoup de demandes précisément pour passer à l'acte, pour revenir à cette expression-là, dans le domaine de l'autofiction et dans ce lien de l'écriture avec un récit qui met en scène des expériences du réel. Hein, on est dans le cadre d'un festival qui s'intéresse précisément à ce lien entre la littérature et le réel. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes dans ce sens-là ?
Oui, c'est vrai qu'il y a quand même une vraie demande. Par ailleurs, pour des personnes qui débutent dans l'écriture, on avait eu ce débat avec Martin Vinclair qui donne des ateliers. C'est peut-être effectivement plus facile de démarrer avec une matière qu'on connaît, ou qui est le jeu, l'autofiction, qui est votre histoire, votre vie. Donc ça peut être effectivement... J'allais dire plus stratégique, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais pour démarrer, en tout cas, il faut très bien connaître votre objet intimement. Alors qu'effectivement, dans des récits finalement qui vont s'appuyer sur une grande documentation, Mélisse de Carangal aussi était intervenue à l'école, on avait beaucoup parlé de ça, du récit, du rapport entre réel et fiction. Là, c'est peut-être un peu plus ardu. Cela dit, évidemment, il n'y a pas de règles. L'autofiction, ça reste, oui, un sujet quand même assez important à l'école. Notamment, d'ailleurs, parce que, comme je le disais, on n'a pas que des personnes qui aspirent à se faire publier. On a aussi des personnes qui ont, à un moment de leur vie, envie de mettre des mots sur un certain nombre de pensées, de ressentis. On travaille beaucoup avec des entreprises aussi, d'ailleurs, en fait. On travaille sur le pouvoir des mots en général. Donc là, l'autofiction effectivement prend une place importante. Et souvent, ce qui est amusant, c'est que les personnes qui viennent nous voir ont peur d'être taxées de narcissisme en fait, en parlant de jeu. Et on doit beaucoup les décomplexer justement en leur disant c'est une excellente matière. Comme on est dans une société qui met beaucoup en avant le jeu, finalement, les personnes qu'on voit à l'école sont plutôt craintives vis-à-vis de ça et en même temps attirées. Donc c'est un petit peu ambivalent. Voilà. Mais moi, je pense que se raconter, c'est déjà un très, très bon exercice.
Voilà. Il y a aussi, dans cette question du rapport au réel, et je pense que vous en témoignez assez bien, Mathieu, la question de... au fait d'un travail d'auteur qui se rapproche d'un travail d'enquêteur, quelque chose qui là est très proche de la démarche d'écriture du journaliste que vous êtes.
Moi, je me sens beaucoup plus journaliste que romancier, au sens où ce qu'on disait tout à l'heure, de l'inspiration qui tombe du ciel, je me lève le matin, je me mets en tailleur dans mon lit et j'ai un roman qui découle comme ça sans avoir mis le nez dehors, j'en suis absolument incapable. Je ne sais pas si d'ailleurs ça existe, mais moi j'ai vraiment besoin d'aller sur le terrain, de discuter avec les gens, d'enquêter vraiment au sens premier du terme, au sens journalistique en tout cas du terme, avec la certitude pour moi d'être absolument incapable de raconter quelque chose que je n'aurais pas soit vu, soit vécu, soit entendu. ou en tout cas si je vais essayer de le faire, je vais assez rapidement tomber dans des clichés, des projections peut-être inconscientes de scènes que je vais décrire parce que finalement je les décris comme ça, mais parce que je les ai déjà vues un peu dans un film ou dans une série ou dans... Et ce qui fait la singularité, justement, à mon sens, encore une fois, je peux parler que pour moi, c'est d'avoir rencontré quelqu'un qui m'a suffisamment marqué pour que j'ai envie de l'écrire ou de le décrire ou presque de le recycler, même si c'est un mot un peu bâtard, mais de le recycler dans une histoire qui sera différente de la sienne, mais en gardant ses caractéristiques, sa manière de parler, sa manière de... son histoire peut-être aussi, son passé. Et en ça, c'est du travail d'enquête journalistique, dans le sens où vous vous levez le matin et au lieu de vous mettre en tailleur dans votre lit, vous sortez dans la rue, allez à la rencontre de gens qui vous intéressent parce que vous allez être sincèrement curieux de connaître leur histoire, leur passé, la manière de vivre, leur métier. Enfin, ça, pour moi, c'est ça la matière avec laquelle je pense pouvoir écrire une histoire qui se rapprochera plus de la fiction finalement que de celle d'un reportage classique. Mais la démarche reste la même.
Sylvie, vous avez l'impression, parmi tous les manuscrits que vous recevez, parce que vous disiez tout à l'heure qu'au fond, c'est vous qui ouvrez les enveloppes, que cette question du...
Les mails.
Ah, les mails, parce que c'est envoyé par mail, d'accord, c'est plus des envois par courrier. D'accord. Que cette question du rapport au réel, quelle qu'en soit la forme d'ailleurs, parce que ça peut être un lien avec l'actualité immédiate, mais ça peut être aussi un lien avec des épisodes historiques, enfin. Mais en tout cas, que le matériau du réel, c'est quelque chose qui prédomine en ce moment dans les textes.
Bah, la preuve, on est dans un festival qui s'appelle Effraction et qui parle de la littérature du réel. Mmh. Et il y a effectivement, en ce moment, à la fois cet effort de narration et ce rapport au réel qui est important, sûrement, parce que l'époque nous pousse à ça, et que les jeunes romanciers qui arrivent ont cette présence, enfin ce besoin de présence au monde, à ce qui bouge, etc., et que ça se perçoit dans le roman. En tout cas, je trouve que moi ça me ça, le je, enfin oui ça, moi je trouve ça intéressant, même dans ma pratique personnelle d'écriture je suis dans ça, donc je vais pas dire que ça m'intéresse pas, mais oui, il y a ça aussi on a besoin. Enfin, le roman est aussi un mode de lecture du monde, en tout cas. Et si on dit aujourd'hui quand même qu'il y a le livre reprend sa place, que les librairies à nouveau sont fréquentées, etc., c'est parce que sûrement on essaye de trouver dans le livre en général, mais aussi dans le roman, des clés de vie, je dirais pas des clés de lecture, mais en tout cas, et que le monde, enfin, ça bouge tellement en ce moment. Que les romanciers qui arrivent à saisir ça, et c'est pas évident à saisir, les journalistes le font, mais les romanciers peuvent aussi le faire à leur manière. Si on arrive à faire ça, ben je crois qu'on va garder nos lecteurs, quoi. On va garder des lecteurs, ils vont entrer en librairie, ils vont acheter des livres pour être là et saisir ce qui se passe.
Mmh. Oui, que le roman est un lieu d'expression des complexités.
Exemple,
du
là,
monde.
Ce week-end, j'ai lu un roman qui raconte l'histoire d'AZF à Toulouse. C'était il y a tout juste 20 ans. Je sais pas si vous vous souvenez, une usine chimique qui a explosé. La ville de Toulouse a été ravagée sur fond d'explosion. L'écrivain raconte une journée, prend une famille, cinq membres d'une famille. Alors il y a la fiction, puisqu'elle invente des personnages, mais on est sur un fond de réel très fort. Et elle me disait, j'ai eu au téléphone tout à l'heure, elle me disait, mais en fait c'était il y a 20 ans, c'était en septembre 2011, c'était juste après l'explosion des tours à Manhattan. Et elle me disait, c'était la première fois que j'ai saisi ce que pouvait être une catastrophe. Et elle me dit aujourd'hui, 20 ans après, en fait, ça devient beaucoup plus... D'abord, on va dire, les catastrophes se sont multipliées. Et on est aujourd'hui dans cette chose-là, quoi. C'est-à-dire, tout peut arriver, soit par catastrophe écologique, soit attentat, etc. On vit dans ça aujourd'hui, notamment en ville. Et elle me dit, et je peux écrire cette histoire aujourd'hui, 20 ans après, et percevoir ce qui s'est produit à l'époque pour moi, dans cette journée qu'elle a vécue à Toulouse, elle-même. Alors, elle fait ce travail de fiction, elle invente des personnages, mais le fond de réalité est là, et sur une histoire qui s'est passée à 20 ans, il y a 20 ans, elle nous parle du monde d'aujourd'hui aussi.
Avant qu'on passe la parole au public, il y a une chose qu'on n'a peut-être pas trop abordée. Tout à l'heure, on disait que les premiers romans occupent une place de plus en plus importante hein, dans les rentrées littéraires, qu'ils ont une visibilité très grande et que je pense qu'on en publie de plus en plus et on leur donne une visibilité de plus en plus grande. Et peut-être la preuve de ça, c'est le fait qu'il y ait des prix littéraires décernés au premier roman. Ben, celui de la ville de Paris en est un bel exemple. Quel rôle ça a, le fait qu'il y ait des prix littéraires vraiment spécifiquement décernés au premier roman ?
Pour moi, en fait, je trouve, et là je parle en tant que lectrice, c'est que la difficulté, c'est qu'il y a tellement de livres géniaux à lire. C'est terrible, c'est vrai, on n'a pas forcément le temps, en fait. Si on a des enfants, un travail, ça va vite, quoi. Et du coup, les prix font office pour moi de... alors c'est un mot que j'utilisais beaucoup... dans mon monde de start-up tech, mais de curation, quoi, c'est-à-dire de sélection de livres. Et les grands prix servent à ça et mettent en avant des romans qui, du coup, sont portés à la connaissance du public, alors qu'il y en a beaucoup. Donc c'est en ça que les prix sont quand même vraiment bien, parce que le public, je pense, quand même a besoin de l'avis de son lecteur, de son libraire, pardon, de prix. Je sais que nous, on fait un gros travail pour mettre en avant les auteurs qui animent des ateliers à l'école, mais aussi ceux qui sont passés par nos murs et qui ont publié un livre. On a mis en place un réseau qui s'appelle Les mots publiés, avec toutes les personnes qui sont passées par l'école et qui ont un roman, pour mettre en avant leur livre, dans un climat où c'est quand même la jungle et il y a énormément de livres et c'est pas évident de le vendre, tout simplement. Donc c'est pour ça que je trouve que les prix, c'est très bien.
Mathieu, sur cette question des...
Juste, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire sur le côté jungle. C'est vrai que moi, j'en avais pas conscience. Mmh. Avant d'être publié, je pensais naïvement qu'en étant publié, j'allais être lu.
Ouais.
Et enfin, je le dis volontairement comme ça parce que c'est vrai. Mais en fait, on se rend compte que 500, je sais pas combien de livres sortent fin août. Et le même nombre sort en janvier. Mmh. Donc ça fait plus de 1000 bouquins en gros qui sortent en 4 mois. Et les gens font pas forcément la sélection. Bon, il y a 50 ou 80 premiers romans. Vous êtes parmi les 1000, quoi. Et donc la chance d'être lu, elle est d'autant plus faible que vous êtes absolument pas connu. Et que parfois, même si vous avez jamais lu Maëlys de Carangal ou Régis Geoffrey, les noms peuvent vous donner un peu résonner en vous parce que vous les avez déjà entendus. Et ça peut peut-être vous attirer sur une table et vous dire, tiens, je vais essayer. Pour quelqu'un qui est primo-romancier, par définition, à moins qu'il sorte d'une émission de télé-réalité très célèbre, il a très peu de chances d'avoir son public, déjà acquis. Donc oui, bien sûr, c'est une manière de plus d'être mis en valeur et d'être un petit peu poussé en disant, bah, eux, voilà, vous ne les connaissez pas, mais nous, libraires ou nous, spécialistes, pouvons vous dire, allez-y, les yeux fermés, nous, on met un petit label dessus qui dit, vous ne serez pas déçus, quoi.
Et d'ailleurs, je dois dire que moi, ça a été effectivement, qui ne vient pas du tout du milieu de l'édition, une vraie prise de conscience depuis la création de l'école en 2017, donc 3-4 ans. Et en fait, on travaille évidemment sur la problématique de l'accès à l'écriture, mais de plus en plus aussi à la promotion de la lecture. Donc on fait beaucoup de clubs de lecture, d'ateliers de lecture. En fait, on essaye de faire le maximum pour mettre en avant tous ces livres magnifiques qu'on a entre les mains et qu'on a envie de faire connaître. Et je pense que quand on ne travaille pas dans ce domaine-là, on ne s'en rend pas compte. Et j'ai vu aussi beaucoup d'auteurs terriblement déçus une fois leur livre publié, finalement ayant le sentiment que le livre arrive dans une mer et puis chut, très vite.
Il tombe dans un trou.
Voilà. Mmh. Et c'est vrai que c'est pour ça que le renouveau de la scène littéraire est merveilleux en ce sens, parce que ça offre de la visibilité à des auteurs qui le valent, quoi.
Peut-être un dernier mot, Sylvie, sur cette question des prix, et notamment des prix consacrés au premier roman.
Oui, surtout, ils sont aussi diffusés sur tout le territoire, ça se passe pas qu'à Paris. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se passent
partout
en France.
Oui.
Et ça peut être le prix d'un conseil général, ça peut être d'un conseil départemental, pardon. Ça peut être le prix d'une librairie qui célèbre. Il y a plein de librairies aussi qui font une sélection de premiers romans, des festivals dédiés aux premiers romans. Il y en a quand même plusieurs en France. Voilà. Et donc là, il y a une diffusion de la lecture sur tout le territoire. Des toutes petites initiatives qui sont très fortes, des médiathèques qui vont inviter des auteurs. Donc il y a vraiment, vraiment, vraiment ça en France quand même qui perdure et qui est très important. Et cette très grande écoute aux jeunes romanciers. Donc ça, c'est vraiment bien.
Bien, ben on va ouvrir le temps des questions et des échanges avec vous, si vous le voulez bien. Il y a un micro qui va permettre qu'on vous entende. Oui, madame, au premier rang.
Est-ce qu'avec les livres qui sont en vente sur Internet, par exemple dans un TPE, on paye un euro puis on peut lire un livre, est-ce que ça stimule les ventes ou est-ce qu'au contraire ça les plombe ?
Vous parlez de quel type de vente ? Parce que les livres sont en général aujourd'hui disponibles en numérique, mais...
Bon, par exemple, il y a un site qui s'appelle un TPE, ça veut dire une très petite entreprise. Ah. Alors si on est un petit particulier comme moi, quoi, je ne suis pas quelqu'un qui a fait de grandes études de lettres ni rien... Mais j'ai déjà écrit des petits textes de 35 pages. Et je me dis, si je mets ça sur un TPE, en faisant par... Bon, moi, c'est des ouvrages à caractère social, plutôt. Hein. Si je mets ça sur, en pub sur les revues d'assistantes sociales pour qu'elles aillent les lire, et on paye avec un téléphone ou on paye avec ce qu'on veut, un euro, puis on peut lire ce livre sur l'Internet directement. Alors, est-ce que ça a du succès ? Ça se fait. Est-ce que ça vous fait de la concurrence à vous ? Est-ce que ça fait baisser les chiffres de vente ou...
Non, mais on n'est pas dans une. Vous savez, on n'est pas dans une. On n'est pas dans le marché de l'automobile où quand vous achetez une voiture, vous n'en achetez pas une deuxième. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence réelle. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est effectivement une forte augmentation de l'auto-édition, on va dire, puisque vous parlez de l'auto-édition. D'ailleurs, à Livre Paris, aujourd'hui, la moitié du mètre carré est occupée par les entreprises d'auto-édition. Donc voilà, ça se développe énormément beaucoup puisque le numérique permet ça. Après, c'est pas de la concurrence. Enfin, je veux dire, ça existe. C'est-à-dire, c'est une autre forme d'édition. Parfois sur des réseaux plus réduits, mais aussi parfois on a des gros succès aujourd'hui qui émergent de l'auto-édition
sur les modalités de lecture aussi qui évoluent et qui changent, quoi. Voilà. Je crois qu'il y a une autre question. Oui, madame.
Oui, pour Élise Debout. L'année dernière, vous avez organisé la rencontre avec les éditeurs. Qu'est-ce que vous en avez retiré au point de vue pratique
Alors, c'était une aventure vraiment géniale. En fait, au bout de 2 ans d'école, on s'est retrouvés avec des participants qui sont venus nous voir en nous disant « Bah voilà, j'ai fait tel atelier et puis finalement, j'ai ce manuscrit. » Et puis, j'ai eu un jour entre les mains un manuscrit et je me suis dit « Waouh, je l'ai dévoré tout le week-end, j'ai trouvé ça génial et je me suis dit ce serait génial de faire un appel à manuscrits des personnes qui sont passées par l'école et de les aider à rencontrer leur éditeur puisque c'est si compliqué. Et on avait reçu à l'époque 200 manuscrits. On en a retenu une vingtaine après 2 comités de sélection. Un premier comité de sélection composé de lecteurs de maisons d'édition et puis de lecteurs tout court. Donc plutôt ce que j'appelais la partie jury populaire et puis un jury professionnel avec des gens comme Baptiste Liger qui était là, donc qui est le rédacteur en chef de Lire, et puis plein d'autres personnes. Et là aujourd'hui, alors ça a été un apprentissage incroyable, on a travaillé avec une vingtaine de maisons d'édition et en fait aujourd'hui sur les 20 auteurs qu'on a retenus, on en a 5 qui ont signé leur contrat. Donc on est super contents. Je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que je ne pensais pas que ce serait aussi long. Je pensais qu'on aurait fini qu'on aurait fait notre appel à manuscrits, que ce serait fini en août. Mais en fait, c'est plus long parce que ça nous a demandé beaucoup de retravailler sur les textes, de pouvoir adresser le bon texte au bon éditeur, etc. Voilà, c'est quand même 5 personnes sur 20. Et puis ceux qui n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds sont déjà souvent sur un deuxième manuscrit. peuvent se poser la question de l'auto-édition, donc c'est super. Moi, je pense qu'il y a des textes, effectivement, on peut se dire, bah, on n'a pas envie de lâcher, son texte n'a pas encore trouvé l'éditeur, mais on y va, on fait de l'auto-édition. Et donc, on va continuer ce type de programme pour aider les participants de l'école, pour leur faciliter la vie, en fait, parce que c'est ça notre objectif. Autant qu'on puisse, autant qu'on peut nous faire, même si de toute façon tout le travail c'est bah, les participants qui le mènent en écrivant, en réécrivant et puis en gardant ce courage et cette énergie qui sont si précieux et qui sont à la base de n'importe quel premier roman. Donc on les encourage à croire en eux malgré le fait qu'on leur dise c'est très difficile, ne vous leurrez pas, ne soyez pas plein d'illusions, mais après les illusions, le bonheur. Et donc finalement, il y a beaucoup, beaucoup de travail, mais vous devez y croire. Chaque personne qui écrit doit y croire. Elle a le droit d'y croire.
Voilà. Je crois qu'il y a une autre question, oui.
Bonjour.
Bonjour.
On a parlé plusieurs fois d'accompagnement de la part des éditeurs. C'est quoi exactement ? Ça consiste en quoi ?
Question facile. L'accompagnement, c'est que lorsque le manuscrit arrive, mais quelle que soit votre pratique, que vous soyez au premier roman ou au dixième roman, vous avez besoin d'un œil tiers, d'un œil de quelqu'un d'autre qui lit votre manuscrit de façon distanciée et qui va faire en sorte de vous amener à pousser votre manuscrit le plus loin possible. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on travaille, on va. Alors, ça dépend du manuscrit, mais on peut travailler sur la structure, lui dire que peut-être si tu commences ton manuscrit à cet endroit-là plutôt qu'ailleurs, ça serait mieux. Peut-être que ce personnage-là, tu ne l'as pas assez travaillé. Et après, voilà, on peut aussi avoir un travail, hein, au final, sur la phrase. C'est-à-dire vraiment le travail de détail, de relecture très précise de la phrase. C'est un travail qui peut se mener sur 5, 6 allers-retours entre l'auteur et l'éditeur. Parfois. Et c'est pas un travail, c'est un travail d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire à l'auteur tu fais ci ou tu fais ça. On est là pour lire, pour entrer le plus possible en profondeur dans son texte, voir les qualités et voir là où le manuscrit n'est pas. Si vous voulez, dans un manuscrit, il y a toujours des passages, enfin, où l'auteur a donné le meilleur de lui-même et on lui dit tu vois ce passage-là, c'est là où tu es le meilleur. Ce passage-là, tu es pas au meilleur de toi-même, donc tu vas essayer de faire en sorte de monter en qualité sur l'ensemble du texte. Alors après, bien sûr, on suggère des choses parce qu'on a ce regard technique, on a cette habitude, on voit les potentialités d'un texte.
Peut-être pour prolonger cette question, comment est-ce que vous avez vécu, Mathieu, ce moment de l'accompagnement du manuscrit qui est toujours un moment important ?
C'est hyper précieux, je trouve, parce que en tant que journaliste, on a toujours un retour parce qu'on a un rédacteur en chef. Donc ce travail-là sur le texte, il existe, mais il n'est jamais poussé justement à ce niveau de précision. C'est-à-dire que je ne dirais pas que c'est de la négligence, c'est simplement que les temps sont différents. Mais le travail en littérature, du coup, sur des textes qui vont devenir des romans, est vraiment poussé au maximum parce que on ne peut pas proposer à un prix, disons à 15, 18, 20 euros, quelque chose qui ne soit pas terminé. Ou en tout cas qu'il ne soit pas poussé au maximum. Quoi. Donc moi, j'ai vraiment apprécié parce que je ne pense pas avoir non plus d'ego surdimensionné sur ce que j'ai écrit. Au contraire, je ne suis pas là à dire « Non, tu m'as changé cette virgule. » Ça, c'est hyper agréable.
Il y a une autre question. Oui, je vous en prie.
Parmi les livres qui sont sélectionnés, le millier de livres qui sont retenus par les maisons d'édition, il y en a qui vont connaître du succès parce qu'ils vont recevoir des prix, etc. Mais il y a quand même un certain nombre qui ne vont pas avoir de succès, justement. Qu'est-ce qui deviennent ces livres ? Est-ce que les maisons d'édition ont l'impression d'avoir fait un mauvais choix ? Une mauvaise sélection, et est-ce qu'il y a un accompagnement au-delà de la première année où ça ne marche pas ?
Voilà. Alors, là vous posez la question en fait du gros succès, c'est-à-dire le livre qui va avoir un prix, qui va avoir beaucoup de ventes. Vous savez, dans une maison d'édition, on sait qu'il y a des livres, d'excellents livres qui ont un potentiel de, par exemple, 2000 ou 3000 exemplaires, parce que ce sont des livres plus difficiles, et pourtant ce sont des livres qu'il faut éditer parce que ce sont des très bons livres. Et vous avez des livres qui ont d'autres potentiels.
qui peuvent avoir un potentiel beaucoup plus important, 20 000 exemplaires ou 50 000 ou 100 000. Alors, vous ne pouvez pas le décider à l'avance, mais quand vous avez un peu de métier, vous savez, en fonction du type de livre, quel est idéalement le nombre de lecteurs possible. Après, moi, j'ai publié pendant 20 ans des auteurs qui vendaient très peu d'exemplaires, et pourtant, chaque livre était important. Et cet auteur-là, on l'a suivi sur 20 ans, même si ses ventes étaient à 1500 exemplaires, par exemple, ou même moins. Donc vous voyez, alors après, moi je vous parle de la pratique que j'ai pu avoir dans la maison d'édition où j'étais avant, où il y avait, dans une maison d'édition, on travaille aussi sur un ensemble de livres sur une année, et on sait que bien sûr sur une année, il faut qu'il y ait des livres à fort potentiel qui vont permettre de faire vivre la maison. Mais il y a aussi des livres qui sont importants, qui sont importants par leur qualité, par l'image de marque qu'ils donnent de la maison. On sait que tel auteur qui est là, qui fait un travail peut-être confidentiel, mais cet auteur-là est important. Et son travail, on le suit. Donc voilà, on réagit. On n'est pas simplement des marchands. On est aussi des gens qui défendons une certaine idée de la littérature pour certains d'entre nous, et qu'on est là aussi en tant qu'éditeur pour repérer des talents. Voilà. Et je peux vous dire qu'il y a de très grands talents, des gens qui vendent très peu et qui sont pourtant de très grands talents. Voilà.
Et c'est très rassurant de savoir qu'un auteur qui ne vend que 1500 exemplaires continue à être accompagné
bien sûr,
par certaines maisons.
Si son travail est toujours la même exigence et de la même nécessité, on continue. En tout cas, dans la maison dans laquelle je travaillais, c'était ça. On avait ce travail-là. En sachant que à côté, il fallait bien sûr assurer aussi, on va dire, assurer sur un certain nombre de ventes et que c'était quand vous êtes éditeur, vous devez aussi rendre des comptes en fin d'année.
Bon, on va prendre encore une question. Oui, je vous en prie.
Allô. Oui, vous m'entendez. Une question peut-être pour Mathieu Palin. Je suis en train de terminer moi-même un texte en ce moment. Quand est-ce qu'on s'arrête, en fait? Quand est-ce qu'on sait que ça y est, c'est le moment d'envoyer notre texte et est-ce qu'il y a un moment peut-être de basculement où on est satisfait et on se dit, d'accord, ça y est, là, c'est le moment de l'envoyer à l'éditeur?
Moi, c'est pour rentrer vraiment dans le détail, j'avais décidé, en accord avec l'éditrice, de lui envoyer la première moitié pour justement pas me retrouver, après avoir passé des mois à écrire, dans une impasse avec 300 000 signes qui seraient à envoyer à la poubelle parce que l'éditrice, à la fin, dirait « mais qu'est-ce que tu m'as fait là, c'est n'importe quoi, machin. » Donc on avait décidé ça. Moi, ce qui me semblait être plus ou moins la moitié de l'histoire, j'envoyais ça et on commençait. Elle me faisait un retour. Après, moi, c'était une histoire, l'histoire du roman, c'est l'histoire d'un jeune que j'ai suivi dans la vraie vie. Et je savais que son histoire, j'allais la mener jusqu'à un certain point. Après, ça pouvait changer à la marge au moment de l'écriture. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai envoyé le manuscrit tel que j'imaginais qu'il était fini. Et l'éditrice m'a dit, écoute, j'aimerais bien que tu rajoutes un chapitre, justement le dernier chapitre. Donc pour ceux qui liront ou qui ont lu le texte, le dernier chapitre de mon livre, il n'existait pas quand je l'ai rendu. C'est l'éditrice qui m'a dit, ta fin, elle est un peu... on voit que t'as pas vraiment voulu offrir de fin, n'hésite pas, lance-toi, fais une fin. Et du coup j'ai rajouté, je sais plus combien, une dizaine de pages, un chapitre, mais qui clôt réellement le roman, quoi. Donc j'avais l'impression, moi, d'avoir fini, et finalement à la lecture on m'a dit, bah, tente, et puis si jamais tes 10 pages elles sont mauvaises, si jamais ça marche pas, on gardera ce que tu nous as envoyé, mais c'est vrai que ça coûte rien d'essayer, quoi.
Voilà.
Vous arrêtez quand vous en pouvez plus, hein.
Il faut bien à un moment donné que ça s'arrête, de toute façon. Bon, on va pouvoir poursuivre cette conversation parce qu'il va y avoir une séance de dédicace à la sortie. Donc, si jamais il y avait des questions plus personnelles, elles pourront être posées à ce moment-là. Je voudrais peut-être, avant qu'on se sépare, vous rappeler, puisque on s'est intéressé au premier roman, qu'il y aura donc une rencontre le 20 mars au Carreau du Temple avec les 5 auteurs qui sont présélectionnés pour le prix des du premier roman des bibliothèques de la ville de Paris. Et puis vous dire aussi que l'après-midi n'est pas terminé, il y a d'autres rencontres, et notamment une rencontre là tout de suite avec Hélène Gaudy et Laurent Demanze. Voilà. Merci infiniment à vous trois, et merci à tous de votre présence, et bonne fin de journée. Merci.
Juste pour vous signaler qu'il y a également à 15h30 les lectures électriques. C'est une performance de lecture d'extraits des auteurs invités sur le festival.